c'est Margot. Aujourd'hui, maman va vous parler de grossesse, de bébé et surtout d'ostéopathie, son métier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des futurs parents et des jeunes parents. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler d'ostéopathie, de grossesse, mais aussi de bébé. J'ai en effet pu discuter avec Catherine Ribus, ostéopathe, comme moi, et fondatrice d'une association géniale qui a pour but de permettre l'accès aux soins ostéopathiques pour les femmes et les bébés. Cette association, c'est IJI. Catherine va donc nous expliquer tout ça dans cet épisode. Bonne écoute.
Bonjour Catherine, merci d'être là aujourd'hui.
Pour commencer, je vais te demander de te présenter un petit peu qui tu es, ton parcours et où est-ce que tu en es éventuellement aujourd'hui.
Bonjour déjà. Voilà, je m'appelle Catherine Ribus et je suis ostéopathe. Mais j'ai cherché un petit peu ma voie pendant un moment, donc j'ai quelques diplômes avant, mais le plus important étant celui de kinésithérapeute, mais que j'ai fait vraiment dans l'idée de devenir ostéopathe, puisque je fais partie d'une génération où il fallait être kiné avant d'être ostéopathe. Voilà, donc je travaille maintenant depuis tellement d'années que normalement la décence veut qu'on ne demande pas aux dames depuis. Ça me donnera une idée de mon âge. Mais disons que globalement, ça fait 28 ans que je travaille comme professionnelle de santé, dont au moins 25 ans en tant qu'ostéopathe.
D'accord. Alors, je t'ai proposé de participer aujourd'hui pour parler principalement donc d'une chose, c'est ton association qui s'appelle IJI4U. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que peut-être tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de créer une association, en fait, finalement, qui permet d'offrir des consultations aux femmes et aux bébés qui en ont besoin?
Écoute, c'est une jolie aventure qui a commencé maintenant il y a presque 8 ans, où en fait, je me suis lancée dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que je suis ostéopathe et principalement, je suis spécialisée en gynécologie et en pédiatrie. Alors, ça peut faire bizarre d'entendre gynécologie avec le mot ostéopathie, mais le fait est donc que vraiment ma spécificité, c'est de travailler avec les femmes. Voilà, j'ai découvert cette façon de travailler il y a assez longtemps avec une sage-femme ostéopathe qui s'appelle Christine Schweitzer, qui nous a appris à vraiment prendre en compte des difficultés qui concernent vraiment la sphère génitale. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de sexisme, genre se battre pour les femmes, se battre pour les hommes. Mais bon, à ce que je sache, la sphère génitale...
C'est plutôt pour les femmes, en effet.
Voilà. Et c'est un domaine qui est assez peu connu. Bon, Alix, tu sais, toi, parce que tu es ostéopathe, que voilà, la plupart des gens, aujourd'hui, on n'est plus une profession si mystérieuse que ça. La plupart des gens savent qu'on peut aller voir son ostéopathe quand on a mal au dos, quand on a mal au cervical, quand on se bloque le fameux lumbago, le torticolis aigu, etc., etc. Donc, tout ce qui est ostéo-articulaire, avec des extensions vers les épaules, les genoux, etc. Ce que les gens connaissent déjà un peu moins, c'est qu'en fait, l'ostéopathie, c'est une discipline holistique qui prend en compte toute la globalité du corps, pas seulement notre carcasse, pas seulement notre squelette, mais aussi nos organes. C'est comme ça qu'on peut voir un ostéopathe, parce qu'on part du principe que tout est lié, hein. Qu'on peut aller voir un ostéopathe parce qu'on a un problème digestif chronique, parce qu'on a des maux de tête, des vertiges, voilà, des choses qui semblent un petit peu plus mystérieuses par rapport au lumbago de base. Et qui dit organe, là, on a cité le système digestif, des douleurs d'estomac, d'intestin. Mais ce que les femmes ne savent pas, c'est qu'on peut aussi s'occuper vraiment principalement de la sphère gynéco, c'est-à-dire leur utérus, leurs ovaires et tous les organes vessie compris du petit bassin. Donc, voilà, c'est, faut savoir que, bon, on le sait aujourd'hui, c'est quand même une zone de notre corps qui peut amener pas mal d'ennuis. Et je ne dirais pas, comme dans la chanson, qu'on soigne de 7 à 77 ans, parce que 7 ans, ça me paraît un petit peu tôt, mais je dirais 13 ans jusque loin, on peut s'occuper des femmes et avec le panel d'ennuis qu'on peut rencontrer. Et ça va aller, et je sais que généralement, on ne sait pas qu'on peut aider à ce niveau-là en ostéopathie. Ça va être, si on part du plus jeune au plus âgé, ça va être les règles douloureuses, les problèmes d'infertilité chez les femmes qui n'arrivent pas, on leur dit les examens sont normaux, mais en fait, elles n'arrivent pas à être enceintes. Examens normaux ou pseudo-normaux, en tout cas pas de vraiment d'infertilité franche, ce qu'on appellerait stérilité. On va suivre aussi les femmes enceintes quand elles ont une grossesse inconfortable, qui n'a pas eu mal au dos pendant sa grossesse, ou des contractions, et pas seulement, parce que ça, c'est le plus simple, c'est ce qui est le plus courant. Mais par exemple, voilà, typiquement, dans les choses que les femmes ne savent pas, c'est qu'on peut les aider non seulement quand elles ont des contractions pendant la grossesse, mais aussi des hémorroïdes. Voilà, c'est moins glamour d'en parler, mais qu'est-ce que c'est embêtant quand on en a, et que ça fait partie des tensions qu'on peut avoir dans le petit bassin autour de cette poche utérine là, qui a un petit locataire, et que nous savons défaire les tensions autour de cet utérus en pleine ascension, en plein développement. Voilà, on aide aussi les femmes alors pas à se préparer au sens sage-femme du terme à l'accouchement, mais préparer leur corps, préparer leur périnée, préparer leur bassin pour que ça soit le plus fluide possible, pour que ça s'ouvre bien. Essayer de faire en sorte que ça ne dure pas 12 ou 14 heures. Essayer de raccourcir les délais quand c'est bien préparé. Et puis, aider les femmes à se récupérer après l'accouchement parce que, mon Dieu, ça peut faire un peu de dégâts, cette grossesse. Pas seulement cet accouchement, parce qu'on s'occupe aussi de femmes qui ont eu des césariennes. C'est-à-dire que la grossesse en elle-même a été un tel bouleversement dans le corps, voilà, ça a tellement poussé nos organes, bousculé notre bassin, etc., que c'est bien de remettre un peu de l'ordre après. Et des femmes qui peuvent avoir bien évidemment mal au dos, mais aussi des problèmes après de fuite urinaire, alors qu'elles ont fait une belle rééducation périnéale, donc on ne comprend pas pourquoi il y a des fuites urinaires. Elles peuvent avoir des douleurs au niveau de leur cicatrice d'épisiotomie, ça c'est un grand classique, ou leur cicatrice césarienne. Voilà. Et là encore, les fameuses hémorroïdes qui normalement auraient dû rester à la maternité et qu'on retrouve plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, qui auraient dû partir. Et ça, c'est pas normal. Donc voilà, c'est vrai qu'on nous connaît pas sous cet angle-là. Et là, je vous aborde vraiment l'obstétrique. Mais on va vraiment très succinctement, parce qu'à développer, ça prendrait des heures, toutes les douleurs que la femme peut rencontrer autour de cette sphère génitale. Les vaginismes, les pudendalgies, les vulvodynies, les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs au rapport qu'elles n'expliquent pas, qu'elles n'avaient pas, et puis tout à coup, elles ont des douleurs au rapport. La fameuse endométriose, parce qu'on en parle beaucoup dans l'infertilité, mais avant de parler, d'abord, ce n'est pas une cause à 100% d'infertilité, mais par contre, c'est souvent une cause de règles très, très, très douloureuses, là, on passe dans la catégorie au-dessus, et des fois de rapports douloureux. Et que voilà, les femmes ne savent pas qu'on peut agir vraiment in situ sur cette sphère de façon très spécifique. Et ce qui fait voilà, des ostéopathes comme moi qui ont osé aller un peu plus loin que de travailler autour du bassin de la maman, de la future maman, de la jeune fille, etc. Parce que là, je sors d'un stage d'obstétrique, donc je suis un petit peu encore dans la femme enceinte. Mais savoir aussi passer par voie interne, les fameuses techniques intrapelviennes, pour aller chercher beaucoup plus en profondeur et donc de façon beaucoup plus précise, spécifique, les tensions gynécologiques. Donc voilà, c'est vraiment voilà, un très, très grand domaine. Et donc voilà, il y a 8 ans, je décide de former les ostéopathes parce que bah, voilà, vous êtes très en demande d'aider les femmes et ma façon de travailler est donc un petit peu plus pointue. Et je me suis aperçue, par ce qui dit technique intrapelvienne, eh ben, je me suis aperçue que c'est pas facile. C'est pas facile pour la patiente, évidemment, quand on va lui expliquer qu'on va... Elle s'attend pas à ça. On va pas chez l'ostéopathe pour avoir un toucher vaginal comme chez le gynéco. Non seulement on peut avoir des réactions, voilà, de défense, voire de méfiance, mais pour le praticien aussi, c'est pas ce qu'on lui a appris au démarrage. Il n'était pas parti pour être gynéco, à ce que je sache. Donc, pas simple parce qu'on va aborder l'intime de ces femmes. Donc, voilà, dans un rapport encore un peu plus proche où on va bah, faire face tout à coup bah, à la notion de pudeur, de réticence. Voilà, ce n'est pas une zone du corps qu'on aborde comme ça avec la même légèreté. Voire même quelquefois pour certaines un certain tabou. Autant elles trouvaient ça normal chez gynéco, autant dans un cabinet d'ostéo, elles peuvent être un petit peu bousculées, un peu surprise. Donc, à nous d'être très clairs dans notre façon de faire, surtout d'être très clairs sur le pourquoi on propose, et on propose, ça n'est pas une obligation, pourquoi on propose certains types de techniques, et bien sûr, évidemment, elle est libre d'accepter ou pas. Donc, de fond, cette difficulté, même à proposer, pas à faire, les techniques sont simples, mais à proposer des techniques dites très intimes, qui en tout cas qui concernent la sphère intime, je suis aperçue quand je croisais des ostéopathes que j'avais formés et qui avaient été très contentes d'être formées ainsi, que du coup, elles avaient quand même du mal à le mettre en application dans le cabinet. Voilà, il y avait un petit refus d'obstacle, comme on dirait en équitation. Et voilà, et c'est comme ça qu'un jour, j'ai eu un flash, hein, où je me suis dit, mais voilà, il y a une solution qui serait géniale pour tout le monde. Et donc, tu me parlais de l'association IJ, où on soigne gratuitement des femmes, mais aussi des bébés, soignés par des ostéopathes diplômés qui ont suivi mes formations, donc qui ont cette formation spécifique. Mais du coup, voilà, c'est comme un échange. D'un côté, j'ai des ostéopathes qui ont vraiment besoin d'être accompagnés et de pratiquer pour devenir des tops, pour devenir les meilleurs. Et de l'autre côté, des femmes qui n'ont pas accès à ces soins. Parce que, comme tu le sais, c'est une pratique, malheureusement, tout le monde n'a pas une super mutuelle pour être remboursé au niveau ostéopathie. C'est encore un des problèmes actuels de cette façon de soigner. Donc voilà, c'est quelque chose qui est généreux, mais généreux, j'aime beaucoup, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire ça aide les ostéopathes, ça aide les mamans et les bébés. Là, je t'ai tout expliqué, là, je t'ai vraiment fait l'autre.
Je pense que tu n'as pas oublié grand-chose.
Hein. Alors, je tenais, tu vois, si tu veux bien, Alix, faire un peu la différence que je t'ai entendu parler de l'association en l'implant IJ4U. Juste faire un tout petit distinguo, c'est que, voilà, il y a 2 ans, j'ai créé un centre de soins à Suresnes dans le 92, un centre de soins avec, pas toute seule, avec la cofondatrice, c'est Charlotte Bergerot-Palisco, que j'espère un jour tu auras dans ton podcast parce que c'est quand même une de nos grandes professionnelles.
On a discuté déjà.
C'est vrai, super. Et donc voilà, on s'est lancé dans cette aventure parce que voilà, la notion de pluridisciplinarité est très importante et c'est un centre de soins vraiment dédié à la femme et à l'enfant, où on a rassemblé non seulement homéopathes, conseillères en lactation, kinés pour de la rééducation périnéale, hypnothérapeutes, naturopathes, voilà. On est toute une équipe pour essayer de répondre à différentes problématiques et demandes. Et c'est ce centre qui s'appelle IJ4U, alors que l'association qui est antérieure s'appelle IJ tout court. C'est-à-dire parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion quand les gens prennent rendez-vous à IJ4U, ils vont tomber sur moi peut-être d'ailleurs, sur des soins payants, alors qu'à l'association, c'est un numéro de téléphone à part pour prendre rendez-vous à l'association.
Ça marche. De toute façon, je mettrai le lien, tout ça, les informations pour que les gens puissent éventuellement prendre rendez-vous s'ils ont besoin. Il faut être en région parisienne. Parler un peu pratique, donc c'est donc à Suresnes. Comment ça se passe? Il y a des jours dédiés, des horaires?
Tout à fait, tout à fait. On reçoit, alors globalement, le gros de l'organisation, c'est une fois par semaine, tous les jeudis, on reçoit à l'association et pour ça, on appelle le numéro de téléphone que tu vas afficher. La secrétaire de l'association donne un rendez-vous. Donc, il n'y a pas de rendez-vous directement sur Doctolib parce qu'on a besoin justement, c'est réservé aux femmes et aux enfants, donc on veut cadrer un petit peu ça. C'est tous les jeudis, mais quand on fait des formations au centre IJ4U, puisqu'on a une grande salle de formation, on fait venir aussi des bébés pour celles qui sont intéressées plutôt par la pédiatrie pour être pris en charge par les ostéopathes qui viennent se perfectionner en ostéopathie. On a en projet peut-être aussi de proposer à des femmes de venir lors de ces stages gynécologiques, d'ostéopathie gynécologique. Ça a l'avantage par rapport au jeudi, puisque c'est le même type de soins, hein, c'est la même qualité de soins, ça a l'avantage d'être souvent le week-end, parce que tout le monde n'est pas disponible jeudi sur des horaires, on reçoit de 10h à 18h, donc bon, c'est vrai que quand on travaille, c'est un peu compliqué. De toute façon, c'est le même numéro de téléphone, c'est la même secrétaire, et elle avertit quand il y a des séances le week-end.
D'accord.
Et du coup, pour les mamans et les bébés qui viennent en consultation, c'est donc complètement gratuit, il n'y a aucune participation de demander?
Non, alors c'est vrai qu'il faut être, moi j'aime bien la transparence, l'honnêteté, c'est vrai que c'est des soins qu'on réservait principalement à des gens qui, financièrement, ne peuvent vraiment pas assumer les séances d'ostéopathie. Mais on n'a pas non plus voulu fermer la porte à des gens qui ne sont peut-être pas dans une grande, grande précarité. Pour te donner un exemple, tu vois, on est très en relation avec les centres d'hébergement d'urgence qui sont réservés aux femmes, à des associations où il y a des violences faites aux femmes, puisque malheureusement, ça peut concerner la sphère gynécologique. Donc, quand les gens sont d'une grande précarité, ce qui souvent se traduit par l'accès à la CMU ou le fameux AME, c'est gratuit, sans condition aucune, et on garde cette gratuité, même si elles peuvent venir plusieurs fois, c'est pas obligatoirement une seule séance. Par contre, si les gens n'ont pas la CMU, mais ça n'empêche qu'on peut avoir quand même un salaire modeste, je pense à toutes ces professions qui ont des mutuelles pas terribles, la fonction publique, les instits, les infirmières, les postières, tout ça, c'est pas qu'une histoire de salaire, c'est une histoire de qualité de mutuelle. La première séance est gratuite pour tout le monde, sans distinguo. Par contre, si elles veulent revenir, on leur demande un don à l'association de 20 euros. Donc, ça reste accessible pour ceux qui ont un petit salaire, mais pas obligatoirement la CMU.
Oui, ça, c'est beaucoup plus accessible qu'une consultation classique.
Tout à fait.
Ou en région parisienne, on est bien d'accord.
Oui.
Partout en France.
Oui, et puis en plus, on n'a pas la prétention de dire qu'on règle obligatoirement tout en une seule séance. Donc, s'il faut revenir, au moins, on ne reste pas comme ça au milieu du guet. On va jusqu'au bout du soin.
D'accord. Le lieu, on a dit, donc ça se fait au centre IG4U à Suresnes. Est-ce que c'est facile d'accès ?
Bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans Paris intramuros, donc c'est voilà, clairement, c'est bien que c'est toujours plus simple à Paris. Mais on a plusieurs points d'accès. On a le train qui arrive de Saint-Lazare, qui est à 10 minutes à pied. On a le tramway, le T2, qui arrive de La Défense, qui c'est 3 stations de tramway. Donc, pour ceux qui sont dans Paris, la ligne de RER qui amène à l'ADEP et ensuite le tram. On a plein de bus qui arrivent de Paris, du 15e, du 16e, etc., de la Porte Maillot. Donc, c'est pas si compliqué que ça. On a toujours cette barrière de se dire, oh, la banlieue, sauf qu'on est quand même juste à côté du bois de Boulogne. Donc, de l'autre côté du bois, on n'est pas non plus dans la pampa totale. Et puis ceux qui viennent de banlieues éloignées, j'ai envie de dire, c'est même l'avantage de venir en voiture sans passer par le centre de Paris. Il y a plusieurs parkings publics autour du centre où il est facile de se garer. Hein. Donc, bon, c'est franchement pas inaccessible.
Ok, alors tu nous as expliqué un peu pourquoi les mamans viennent en consultation. Mais quand vous les voyez pendant la grossesse, qu'est-ce que vous leur conseillez en fait pour la suite par rapport à leur bébé notamment ?
Alors, c'est sûr que c'est génial quand on les voit dès la grossesse parce qu'on va pouvoir leur donner plein d'informations sur leur bébé. D'ailleurs, souvent, c'est elles qui posent la question « Quand est-ce que je vous amène mon bébé ?» Alors, évidemment, tout dépendra aussi de la façon dont s'est passée la naissance, mais pas que. C'est surtout la notion d'urgence qui va faire la différence. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien comment il s'est installé à l'intérieur de maman et est-ce qu'éventuellement, il va présenter des tensions. Mais c'est sûr que si l'accouchement a été long et difficile, ça nous donne déjà l'information que son positionnement devait être un peu étrange, qu'il a dû faire quelques petites galipettes et se mettre dans des positions inconfortables dont on verra les traces. Donc nous, les grands motifs de consultation, si on prend pareil du plus petit au bébé qui grandit, le plus petit, c'est ce bébé qui pleure beaucoup, on sent bien qu'il n'est pas bien dans son corps. Cette arrivée a été difficile. Ce bébé qu'on ne peut pas poser, qui reste accroché à nous, on sent cet inconfort quand on est une maman, qui en plus, assez rapidement, va montrer peut-être des reflux gastro-œsophagiens, des régurgitations qui sont presque des vomissements. On a l'impression que ça ne passe pas. Il va avoir des fameuses crises de colique qui le mettent dans des états épouvantables, surtout en fin de journée. Donc oui, il y a des pleurs de décharge le soir, mais on sait bien quand ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est autre chose. On n'est plus dans les pleurs de décharge. Voilà, ça, c'est les gros des motifs de consultation. Et puis, quand on dépasse un mois et demi, on peut voir apparaître des petites déformations crâniennes plus ou moins importantes. Si on voit une déformation crânienne dès la naissance, alors il faut vraiment venir vite. Ça veut dire qu'elle est un petit peu plus cognée qu'un simple positionnement de tête dans son lit. Donc, voilà, si la naissance est difficile, on leur propose de venir le plus rapidement possible, d'adapter vite parce qu'il faut soulager cet enfant. Mais de toute façon, on conseille une séance de bilan parce que c'est pas aux mamans à analyser des pieds à la tête leur bébé. Puis tu sais, Alix, on a les yeux de l'amour, donc les petites choses qui vont pas bien, des fois, on les voit pas quand elles sont petites. nos bébés sont parfaits. Et mais tu sais que le petit truc, ce bébé qui ne tourne pas très bien la tête d'un côté, c'était presque imperceptible pour la maman, mais ça va donner quelque chose peut-être qui fait qu'il va dormir toujours dans la même position et il va déformer son crâne. Donc, on ne l'a pas vu, mais c'est à 2-3 mois qu'elle vient en disant « je ne comprends pas, il est aplati de l'arrière de la tête ou sur le côté » parce qu'elles n'ont pas vu qu'il avait cette petite restriction de mobilité. Donc, c'est pour ça que le plus tôt, dans le premier mois, on peut faire un bilan et mieux c'est. Et il n'y en aura peut-être qu'une si ce bébé a eu une naissance facile, mais plus on va prendre tôt les choses, plus elles seront faciles à régler.
Et alors donc, les consultations là, chez IJ, à l'association IJ, ça se passe comment ? C'est avec un ostéopathe, ce sont plusieurs ?
Alors, j'ai très envie que les bénévoles viennent, évidemment, parce qu'on a beaucoup de demandes de maman et bébé, et donc c'est du bénévolat, donc j'essaye de motiver mes troupes. Et pour que les choses soient plus conviviales et sympathiques, je les fais travailler en binôme. Pour plusieurs raisons. D'abord, toujours dans l'idée que l'association avait été montée pour les deux, pour les bénévoles et pour les mamans et les bébés. Pour les bénévoles, c'est l'avantage de se retrouver à deux et de pouvoir échanger. Si elles ont un doute sur une tension, sur un bébé, sur une maman, de dire « et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Voilà, elles se soutiennent, c'est plus convivial, c'est plus sympa, puisque voilà, elles peuvent comme ça ainsi échanger leurs informations et faire une séance encore plus efficace. Et pour les mamans, ben le grand luxe, c'est qu'elles ont des traitements à quatre mains, qui est un peu la Rolls de l'ostéopathie, parce qu'il y en a une qui va s'occuper, par exemple, du crâne, des cervicales, quand l'autre s'occupe du bassin, et les deux cohabitent très bien ensemble. Sur les bébés, c'est merveilleux, ça donne des séances encore plus efficaces. J'ai envie de dire, elles ont le meilleur du meilleur. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'arrive à motiver toutes ces bénévoles, parce que je pense qu'on aime bien l'ambiance à l'association IJ.
Bon, et comme tu dis, c'est plutôt des filles quand même, des femmes ostéopathes. Il y a quelques garçons quand même.
Il y a quelques garçons qui se sont, alors principalement en pédiatrie, qui sont venus faire les formations en pédiatrie au centre IJ4U, avec moi, avec Charlotte. Et quelques-uns se sont formés aussi à la gynéco. Alors là, quand c'est comme ça, on demande à la patiente est-ce qu'elle est d'accord. Et de l'avantage d'être en binôme, c'est que si elle montre, elle dit qu'elle est gênée que ça soit un homme qui la traite, eh ben il y a son binôme. On mettra pas deux garçons ensemble en binôme, évidemment. Et le grand luxe aussi, c'est qu'on va mettre quelqu'un qui a fait peut-être vraiment une spécialisation gynéco et l'autre ostéopathe plutôt la pédiatrie. Et du coup, il y en a toujours un des deux qui s'est spécialisé dans le domaine. Hein. Oui, en effet, une fois de temps en temps, il y a des garçons et je vois des fois les garçons sortir de la consulte parce que la future maman ou la jeune maman était gênée qu'il y ait un monsieur. Il faut tenir compte aussi, Alix, des religions. Voilà, certaines religions n'accepteront pas de se déshabiller devant un homme. Et on respecte chaque obédience.
Oui, vous adaptez, quoi.
Bien sûr.
Ça marche. Peut-être juste un petit mot, parce que tu as parlé de tes formations. Tu fais les formations donc pédiatrie et gynéco. Et donc, maintenant, en pédiatrie, Charlotte donc Bergerot-Palisco, qui fait une formation avec toi au centre, sur tout ce qui est les problématiques de succion aussi.
Ouais.
J'imagine que les personnes qui font cette formation peuvent aussi venir et faire partie de l'association.
Tout à fait, tout à fait.
Il y a aussi ces problématiques-là, quoi, de succion, de frein, de difficultés d'allaitement, etc., qui peuvent être pris en charge.
Voilà, très souvent, ce sont ceux qui se passionnent pour la pédiatrie, qui poussent encore plus loin leur spécialisation, en étant capable avec Charlotte Bergerot vraiment d'analyser ces problématiques, ces troubles de la succion, qui ne sont pas toujours des bébés allaités, hein, ça peut être un bébé bon, mais voilà, qui a vraiment un problème de déglutition, qui avale de l'air avec ou sans frein restrictif buccal. Donc là on a le top du top de la formation. Et bien sûr, ils ont accès, parce que c'est un petit peu la condition sine qua non. J'ai quelquefois des demandes d'ostéopathes qui voudraient être bénévoles chez IJ. Le fait est que je n'ai pas d'exigence serrée sur le fait d'avoir été formée chez IJ4U, mais je leur demande d'avoir une formation en ostéopathie gynécologique, parce que pour moi, c'est l'efficacité même. Voilà, c'est ma vision des choses. Si on ne sait pas le faire, je pense qu'on n'est pas aussi efficace. Mais voilà, je ne suis pas la seule formatrice en ostéopathie gynéco. Donc, quand elles ont fait une autre formation, elles sont les bienvenues. On a toujours besoin de bénévoles dans l'association. Et pareil pour la pédiatrie, éventuellement, quand elles ont fait des formations que j'estime sérieuse. On peut éventuellement passer un moment pour vérifier qu'on est d'accord sur tout, sur la prise en charge. Et évidemment, on peut venir être bénévole à l'association.
Ok, d'accord. Bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce que tu en penses ?
Non, mais c'est vraiment super sympa de parler de cette association parce que il y a vraiment beaucoup de femmes qui ne savent même pas que ça existe et qui en ont besoin. Il faut surtout pas qu'elles soient timides, qu'elles appellent. C'est Marie qui répond au téléphone à l'association, qui répondra à leurs questions. Voilà, c'est pas l'anonymat d'un Doctolib, c'est une personne. Voilà, que les femmes n'hésitent pas à en parler autour d'elles. Il y a de la place, on n'est pas encore totalement débordé de travail, il n'y a pas 4 mois d'attente pour un rendez-vous, même si ce ne sera peut-être pas obligatoirement la semaine prochaine. Donc, surtout qu'elles n'hésitent pas à appeler pour se renseigner.
Ça marche. Je pose toujours une petite question supplémentaire que je ne t'ai pas envoyée.
Donc, c'est une question surprise, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Est-ce que tu as un petit truc, quelque chose qui te fait tenir dans tes journées, dans tes semaines surchargées d'ostéopathe et de maman aussi ? J'en sais rien, est-ce que c'est le petit carré de chocolat le soir ? Est-ce que c'est la séance de sport ? Est-ce que c'est la balade ?
Écoute, déjà, j'ai la chance d'avoir énormément d'énergie naturellement. Ça, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance parce que j'ai des fois du mal à sentir un peu la limite et quelquefois, ça m'arrive quand même de sentir que j'ai tiré un peu sur la corde. Et en effet, je fais beaucoup de choses entre les consultations, les formations, l'association, gérer le centre. J'ai envie de te dire un truc qui peut paraître un peu bateau, mais j'y crois vraiment. Je suis une passionnée. Je crois que j'aime profondément ce que je fais et ça me tient. Quand on est vraiment fatigué, je ne sais pas si tu as remarqué, des fois en fin de journée, c'est la vie va te faire le cadeau d'une patiente qui a un dossier vraiment particulièrement difficile. Quand tu sens que tu as pu l'aider, que tu as été la réponse à quelque chose qu'elle a depuis longtemps, je trouve que ça nous porte. Alors, c'est peut-être même un peu égoïste, hein, c'est de me dire que je lui ai fait du bien, mais ça m'a fait du bien à moi aussi. Pour moi, c'est la clé. Hein. Alors, évidemment, comme je prends de l'âge, j'essaye de me bouger un petit peu plus physiquement pour tenir le coup parce que j'encaisse plus de la même façon maintenant. Voilà, ça. Et puis, le soir, donne-moi un bon verre de Bordeaux, puis ça va me consoler d'une journée difficile. Et en plus, je vais très, très bien dormir. Je pense que le sommeil, c'est une clé importante. Ne soyez pas choqués, on a le droit d'être des bons vivants, même si on est des professionnels de santé.
Bien dormir, effectivement, c'est important. C'est évident à toutes les étapes de la vie, on peut dire.
Non, non. Mais on sent bien que quand tes batteries sont déchargées, si on ne prend pas le temps de les recharger, c'est compliqué de tenir le coup. Hein.
Mais en tout cas, vivre sa passion au quotidien, c'est plutôt
une bonne façon de vivre.
Après, c'est malheureusement pas le cas pour tout le monde, mais
si tout le monde pouvait faire ce qu'il aime dans la vie,
je pense qu'on serait tous bien mieux dans nos baskets et dans nos vies.
Oui, et toi, comme moi, tu es une maman, je pense que ça fait partie des choses à faire passer dans les messages à nos enfants. Moi, j'ai des grands ados maintenant. J'aurais toujours dit, essayez, battez-vous pour choisir quelque chose dans votre vie qui vous anime. Et ce sera peut-être pas le travail, peut-être que ce sera une passion vécue en parallèle, hein, n'est pas professionnel. Mais levez-vous en ayant un truc qui vous tient parce que c'est ça qui recharge, qui nous recharge. Et que c'est vrai qu'en tant qu'ostéopathe, si on aime vraiment son métier, on a la chance de pouvoir allier profession et passion. Et on y passe quand même beaucoup de temps et c'est vrai que c'est une très, très grande chance.
C'est clair. C'est souvent un métier passion. Quand on s'occupe des autres, je pense que globalement, c'est souvent aussi une passion. On ne peut pas s'occuper des autres si on n'aime pas les autres et si on n'aime pas ce qu'on fait.
Oui, et puis pas hésiter à renouveler parce que je pense, voilà, je crois qu'un des plus jolis compliments qu'on m'ait fait lors du dernier stage, c'est une des élèves qui m'a dit « Ah, pour une fois, un stage où je ne m'ennuie pas ». Alors, je suis désolée pour mes confrères, mais le fait est que je déteste m'ennuyer aussi. Donc, tu as connu ces stages, on peut même avoir des moments de rigolade. Je déteste m'ennuyer et si je donnais un conseil aux jeunes professionnels ou professionnels tout court, c'est de ne pas hésiter à renouveler. C'est quand on sent qu'on est tombé dans une routine, bah aller se former à autre chose, aller découvrir une autre façon de travailler. À un moment, quand j'ai eu l'impression de faire le tour, c'est là où j'ai eu envie d'enseigner. Après l'enseignement, bah tu le sais, j'ai écrit le livre « Si j'avais su l'ostéopathie au service des femmes ». Parce que j'avais envie là que le grand public le sache. Tu sais que j'ai une expérience grand public avec l'émission des maternelles. J'ai été leur consultante pendant très, très longtemps. Et c'est important de savoir communiquer vers ce grand public avec des mots simples. Donc, ce livre était pour vraiment essayer de dire aux femmes, voilà, on peut faire quelque chose dans vos problèmes gynéco. Donc, ça aussi, c'était une aventure. Je ne suis pas écrivain, je suis ostéopathe. Donc, créer l'association était une aventure. Créer le centre, alors ça, c'était une sacrée aventure aussi. Donc, voilà, oser mettre des choses nouvelles, même si tout tourne autour de mon cœur de métier. Hein, je ne me suis pas mise à vendre des fleurs, hein, mais ça pourrait être une dernière partie de vie, mais je serais moins douée, je pense. Donc, voilà, entretenir la flamme de la passion. Jeter des bûches nouvelles dans l'âtre pour que ça flambe.
Eh bien, écoute, on va finir sur ces jolis mots. Je te remercie beaucoup pour cet échange.
Merci à toi, Alix. Merci pour l'intérêt que tu portes à l'association, j'en suis ravie.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez retrouver toutes les informations de l'association sur le site associationij.com, mais aussi sur Instagram, au même nom, tout simplement. Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler ou d'envoyer un SMS au 06 50 76 65 48. Pas de panique, je vous remets le numéro dans la description, ainsi que le site internet et le compte Instagram. Ainsi, vous aurez toutes les infos pour pouvoir consulter si vous êtes en région parisienne. Pour le prochain épisode, nous allons parler hygiène naturelle infantile, acquisition de la continence, ou bien de la propreté, ça dépend du point de vue. On discutera de tout ça avec Rokia Hossein, qui est psychomotricienne et qui a écrit un livre sur le sujet. Pour finir, je laisse le mot de la fin à Edouard. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos bouts de choux.
Merci. Bye bye. Bonjour. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.